Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Bongo Basimambo.
À la une, le démarrage aujourd'hui de la 13e conférence des gouvernants des provinces. L'événement va se dérouler à Bantoundouville sous la direction du chef de l'État. Le thème de cette année met un accent particulier sur le développement du secteur agricole et des voies d'évacuation des produits. Dans ce journal, l'ambiance sur place à Bantoundouville, les réactions des quelques gouverneurs et de la bourgmestre de Bassoko, commune qui accueille l'événement. Nous ferons aussi le point sur la mise en œuvre des résolutions des précédentes conférences. Les partenaires financiers de la RDC s'engagent à mobiliser 150 millions de dollars américains pour financer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. La dernière a eu lieu il y a 42 ans. Ils ont pris ces engagements lors d'une table ronde hier à Kinshasa. Les participants au dialogue entre Congolais ont débattu hier des deux initiatives récentes de lutte contre la corruption qui gangrène le pays, la création du tribunal pénal économique et financier par le chef de l'État et aussi l'application Tofungolamiso. Vous suivrez leurs réactions dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Les regards de plusieurs Congolais sont tournés aujourd'hui vers le Bandundu. Cette ville organise dans quelques heures en effet la 13e conférence des gouverneurs, avec en perspective l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur place. Plusieurs chefs d'exécution provinciaux ainsi que les membres du gouvernement sont déjà sur place. Entre rotation aérienne intensifiée, hôtel bondé et dispositifs sécuritaires renforcés, la ville se transforme pour cet événement d'envergure nationale. Au cœur de l'organisation, la commune des Bassoko, sa bourgmestre se dit honorée d'accueillir pour la première fois ses assises, qu'elle considère aussi comme une opportunité de valoriser le potentiel agricole et l'image de Bandundu. On écoute la bourgmestre de Bassoko, Kasilda Kibongo, au micro de Jean-Claude Tangamo de la radio communautaire Bandundu Développement.
Nous nous sentons plus qu'honorés pour la venue de cette 13e session de conférence dans notre ville de Bandundu particulièrement. Toutes les assises vont se dérouler dans la commune dont nous sommes bourgmestres. Tout se déroule bien, nous avons accueilli presque tous les hôtes, ils sont installés et nous osons croire que c'est une opportunité majeure pour notre ville d'organiser pour la première fois cette session de conférence et ça va nous faire bénéficier d'abord des contacts et aussi les autres vont découvrir la ville de Bandundu qui est généralement une ville paisible sur un plateau entouré d'eau très riche et qui a le pouvoir agricole à 70% et les thèmes coïncident bien pour que nous puissions profiter de tous les inputs de cette conférence que ça serve au développement agricole de notre province. Que tous nos invités se sentent à l'aise, nous sommes en République démocratique du Congo, ils sont aussi chez eux, accueillis, salués, donner de l'eau, donner de la place, pourquoi pas, à tous ceux qui sont venus.
Et cette 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces qui se tient du 24 au 28 mars dans la ville de Bandundu est placée sous le thème « Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains ». Cette rencontre de haut niveau suscite déjà une effervescence particulière dans le chef-lieu de la province du Kwilu. L'ambiance est électrique dans les principales artères de la ville, ornée des couleurs des partis politiques. À l'aéroport national de Bandundu, l'activité a décuplé. Le trafic est passé d'une rotation unique à plus de 6 vols quotidien, marquant l'arrivée massive de délégations. D'autres auditeurs avec vous, Alain Rung.
Pour le gouverneur de la province du Haut où elle est, la tenue régulière de ses assises témoigne du respect des textes fondamentaux du pays. Jean Bakomi Tongambo.
Nous allons cette fois-ci tabler un peu plus sur l'agriculture qui est un secteur capable de rehausser le niveau de vie de nos populations à la base.
Conformément au thème national axé sur la transformation agricole, pastorale et halieutique, les chefs des exécutifs provinciaux entendent faire de la sécurité alimentaire une priorité. Paulin Lendongolia, gouverneur de la Tchopo, a souligné l'importance stratégique de cette session pour les vécus des populations.
La constitution est en train d'être respectée. Il est prévu dans notre constitution la tenue des fois de la conférence des gouverneurs par an. Et ça n'a jamais été respecté. Mais aujourd'hui, nous sentons que c'est déjà effectif. Les choses avancent.
Outre les questions économiques, les gouverneurs prévoient également d'aborder les défis liés à la sécurité et à l'administration territoriale sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi.
13e conférence des gouverneurs encore, l'analyste politique Joseph Kongolé s'exprime. Il estime qu'il faut éviter à tout prix que cette rencontre ne soit une réunion de plus sans impact. Il rappelle que plusieurs résolutions issues des précédentes conférences n'ont pas été appliquées, ce qui, selon lui, risque de discréditer cette institution, alors que les populations en attendent beaucoup. On écoute Joseph Kongolé, joint par Alain Rung.
La conférence des gouverneurs est une institution capitale dans un pays où le niveau de développement des provinces est disparate et en même temps aussi dans un pays qui cherche à consolider la décentralisation dans sa gouvernance locale. Mais alors, le bémol, c'est que cette conférence, depuis qu'elle a commencé, elle sort des résolutions, elle sort des recommandations, mais qui sont à une très faible exécution. Et voilà pourquoi cette institution n'est pas productive, mais plutôt contre-productive en termes d'objectifs lui assignés à la fois par la Constitution aussi. Pourquoi nous disons, nous sommes tentés de croire que ça sera peut-être une session ou une conférence de plus, mais en réalité, qui a une importance capitale dans la gouvernance de la République. Nous pensons qu'aujourd'hui, la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo est fondée sur l'agriculture. Est-ce que les résolutions qui vont sortir de cette conférence vont aider la République démocratique du Congo aujourd'hui à prendre d'autres orientations économiques, telles que l'agriculture? Est-ce que les décisions et les résolutions qui vont sortir vont-elles bénéficier des 10% qui constituent la Caisse nationale de péréquation pour leur exécution? C'est là que des grandes questions que nous nous posons.
Parlons justement des conférences précédentes. Qu'en est-il des résolutions et autres recommandations formulées lors de la 12e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba sur le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». C'était en juin de l'année passée. Un rappel dans ce condensé d'Alain Rung, rendu par Grace Amzati.
Lors de l'ouverture de la 12e conférence, plusieurs gouverneurs avaient dénoncé l'inexécution de la grande majorité des recommandations des précédentes sessions. Cela, selon eux, constituait la principale inquiétude qu'avaient exprimé les gouverneurs à travers leur mémorandum lu par Jacques Kiabula, à l'époque gouverneur du Haut-Katanga et vice-doyen du collectif des gouverneurs des provinces.
La non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation, organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisée. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif des motions.
À la clôture de la 12e session, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait recommandé à chaque gouverneur de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue et de réserver annuellement au moins 15% de leur budget pour ce secteur.
Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social.
Enfin, le président Tshisekedi était revenu une fois de plus sur son rappel aux gouverneurs et aux assemblées provinciales quant à la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle, surtout en cette période de guerre d'agression dans la partie est de la RDC.
Face à cette bonne nouvelle dans ce journal, les partenaires financiers de la RDC s'engagent à mobiliser 150 millions de dollars américains pour financer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat 42 ans après. Ils ont pris ces engagements lors d'une table ronde des bailleurs de fonds organisée hier lundi à Kinshasa. C'était en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de la première ministre et des autres membres du gouvernement. Prenant la parole, le chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour cet appui considérable dans l'organisation du dénombrement de la population congolaise. Le détail avec Jody Daniel Kachama.
La Banque mondiale s'engage à mobiliser 100 millions de dollars, la BAD 50 millions et la RDC a déjà disponibilisé 30 millions de dollars. Le Fonds monétaire international et les Nations unies se sont également engagés à mettre la main dans la poche. Le coût global du recensement a été évalué à 192 millions de dollars américains selon le ministère du Plan. Madame Diene Keïta, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, s'est exprimée en ces termes.
Je pense que les retombées sont très claires. Les objectifs sont largement atteints. C'était une table ronde de consultation et de mobilisation des différents partenaires techniques et financiers et les différentes allocations qui ont été faites sont vraiment très prometteuses. Et vous avez entendu les institutions financières qui se sont déjà déclarés. Nous allons simplement au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, comme nous sommes l'agent fiduciaire, nous assurer que les décaissements soient faits dans les meilleurs délais possibles et aussi nous assurer de l'utilisation effective et transparente de ces ressources-là dans le meilleur intérêt des populations congolaises sous le leadership du gouvernement.
Avec cette mobilisation des fonds, toutes les batteries sont en marche pour dénombrer la population congolaise, connaître ses caractéristiques, ses besoins et bien définir les politiques publiques. Les chefs coutumiers et les leaders religieux ont également pris part à cette table ronde.
Altercation entre forces de l'ordre et creuseurs artisanaux hier lundi à Kolwezi, dans la province du Lualaba, bilan un blessé et deux véhicules incendiés. Les faits se sont déroulés précisément sur le site dénommé Sulfur Katapula. À la base, les creuseurs artisanaux accusent une personne se réclamant être le conseiller du chef de l'État de ravir le site minier après avoir été dégarpé du site par des militaires. Qu'en est-il au juste pour la Munanga?
Des hommes et des femmes qui exercent leurs activités au niveau du site minier dénommé Sulfur Katapula se sont soulevés aux premières heures de ce lundi, scandant des chansons. Ils ont barricadé la route nationale numéro 39, tronçon Lwilu Iseka à Kolwezi, indiquent des témoins, et ils ont brûlé des pneus. Au cours de la manifestation, un creuseur artisanal a été blessé par balle. Une voiture de marque RAV4 et un camion de marque OO ont été incendiés. Les manifestants en colère accuse une personne qui s'identifie comme étant conseiller du chef de l'État d'avoir occupé les sites miniers qu'ils étaient en train d'exploiter. Un manifestant s'exprime.
Nous avons le regret de voir un conseiller, soi-disant conseiller du chef de l'État, répondant au nom de M. Kao. M. Kao Mandungu est venu nous ravir notre concession. La communauté Iseka. Aujourd'hui, Kao nous amène tout un arsenal de la garde républicaine. Aujourd'hui, la garde républicaine garde les sites miniers de M. Kao. Nous sommes en train de travailler pour gagner du pain.
Nous ne sommes pas parvenus à atteindre la personne incriminée ni les autorités du Lualaba. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Kinshasa a également été secoué hier, mais par les premiers signes d'une pénurie de carburant. En tout cas, ces indices apparaissent dans plusieurs stations-service de la capitale. File d'attente inhabituelle, rupture d'approvisionnement et inquiétude des usagers traduisent une situation qui pourrait affecter la mobilité urbaine et les activités économiques si des mesures rapides ne sont pas prises. Dans certaines stations, les pompistes exigent 1000 francs congolais de plus avant chaque approvisionnement, expliquent des conducteurs rencontrés par nos reporters Magloire Landou et John Chibobo.
Nous sommes à la station en jeune au croisement des avenues Université et Capella. Ici, la course pour obtenir du carburant est engagée. Automobilistes impatients, tension et nervosité. À l'origine, la rareté observée depuis quelques jours dans la capitale, aggravée par le manque d'informations et la crainte des manques de carburant.
Cette situation tend à s'empirer. Il n'y a pas de carburant, c'est devenu difficile pour s'en procurer. On ne sait pas comment nous allons survivre. Hier même, j'ai laissé ma voiture à la station, je suis revenu ce matin, je ne suis toujours pas servir, que les autorités agissent car ça va s'empirer.
Face à une forte demande, le pompiste exige 1000 francs congolais de plus avant chaque approvisionnement.
Le problème est qu'il n'y a pas d'essence. Voilà pourquoi nous sommes venus avec deux bidons, histoire de faciliter son accès, mais c'est toujours difficile. Pour acheter le carburant, le pompiste exige 1000 francs de surplus pour tout le monde, motard ou véhicule. Nous demandons aux autorités de nous aider car ça devient compliqué, surtout pour nous les chauffeurs.
En attendant une communication claire des autorités et un retour à la normale, le station-service de Kinshasa reste sous pression au rythme des klaxons et de bousculades.
Et concernant la situation du carburant, dans une dépêche de l'agence congolaise de presse qui est parvenue hier lundi, la ministre d'État en charge des hydrocarbures a démenti une éventuelle pénurie de carburant à Kinshasa. La ville de Kinshasa ne connaît aucune pénurie de carburant, rassure Acacia Bandoubola lors d'une visite dans les installations de SEP Congo dans la commune de Lagombe. Elle s'y est rendue après avoir observé de longues files dans plusieurs stations-service. Dans les colonnes de l'agence congolaise de presse, la ministre d'État en charge des hydrocarbures appelle au calme en dénonçant l'effet de rumeur sur la distribution de carburant dans la capitale. Acacia Bandoubola apaise la population, précisant que les files d'attente ne résultent pas d'un manque de produits pétroliers. Pour sa part, le directeur général de SEP Congo, Malik Kondiaï, a indiqué que le stock est disponible en gasoil et en essence, assurant une couverture suffisante pour la capitale et l'intérieur du pays. Justice en Côte d'Ivoire à présent, deux mandats d'arrêt sont émis contre le chef des ADF, Moussa Seka Abaloukou, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs par l'auditorat militaire de garnison de Boutembo. Ces mandats signés en janvier dernier et dont nous venons de recevoir copie, les accusent d'attaque meurtrière contre des civils dans le territoire de Lubero. Précision avec Martial Papimoukeba.
Dans un premier mandat d'arrêt signé le 6 janvier 2026, la justice militaire vise Moussa Seka Abaloukou, présenté comme le commandant en chef des ADF. Il est poursuivi pour son implication présumée dans des attaques du 1er janvier 2026 à Katanga, Maendeleo et Kilongi dans les secteurs de Bapere en territoire de Lubero. Selon la société civile, au moins 20 civils avaient été tués lors de cette attaque avec d'importants dégâts matériels. Un second mandat émis le 28 janvier 2026, cible plusieurs de ses collaborateurs, dont Abu Akasi, Chalamanda, Dok Takabogo, Difenda, Kabibande et Seka Amaru, présentés comme commandants des ADF. Ils sont accusés d'avoir dirigé des embuscades et des incursions meurtrières à Maoussa, Moussenge et sur l'axe Njiapanda Mangurujipa entre les 7 et le 24 janvier 2026, où plusieurs civils ont également été tués. Selon l'auditorat militaire, ces actes ont choqué la conscience nationale et internationale par leur brutalité. La justice ordonne leur arrestation en fait qu'ils répondent de leurs actes. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, des villages entiers sont submergés par des eaux dans le comté de Kisumu. La région subit de plein fouet les aléas du climat. Les dernières pluies torrentielles ont tué plus de 80 personnes selon les autorités.
L'invité.
Le tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en RDC a été créé par le président de la République par ordonnance loi du 14 mars 2026. Dans la même optique, il s'est tenu à Kinshasa le vendredi une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application Tofungola Miso. Entendez, ouvrons les yeux. Cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption de manière anonyme ou non. Au vu de toutes ces initiatives, les participants à l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont évalué la lutte contre la corruption en RDC. On les écoute au micro de Guimaté.
Madame Elodie Tamuzinda, vous êtes coordonnatrice de Dignité Humaine ASBEL. Vous êtes experte électorale, experte en résolution des conflits. En plus de votre application Tofungola Miso, nous avons également rappelé que le chef de l'État vient de créer un tribunal pénal, économique et financier pour notamment lutter contre la corruption. Au vu de toutes ces initiatives, comment vous évaluez la lutte contre la corruption en RDC, Madame Elodie Tamuzinda?
Déjà, nous devons féliciter le gouvernement à travers cette initiative de mise en place du tribunal économique financier, puisque le cadre légal était aussi pauvre en rapport avec la lutte contre la corruption en RDC. Et du moment où nous voyons que de plus en plus, nous y allons dans le sens d'avoir des lois, d'avoir des décrets qui doivent accompagner cette lutte, pour nous, c'est un ouvre de soulagement. En présence, nous avons l'honorable vice-président de l'APNAC qui a initié même ces projets de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, puisque ça aussi pour nous c'est vraiment une épine dorsale. Nous ne savons pas comment y aller sans être inquiété dans un environnement où lorsque vous dites la vérité ou vous dénoncez d'une manière objective, mais si ça gêne par exemple une autorité, ça risque d'avoir des représailles. Et c'est là où nous avons dit non. Du moment où nous avons l'APNAC qui a à son sein, c'est lui qui a initié même cette loi, en tout cas nous devons vraiment nous y accrocher. Et c'est pour dire que nous félicitons, mais il y a des inquiétudes. Des inquiétudes, ce sont ces mesures d'application. Est-ce que ce sont les lois qui nous manquent? Non, nous avons besoin du cadre légal d'un côté, mais le cadre légal n'est pas une fin en soi. Il doit y avoir nécessairement des mesures d'application.
Merci. Prosper Tunda Kasongo, vous êtes député national élu de Kibombo dans la province du Maniema. Vous êtes président national du Parti des démocrates humanistes PDH en sigle, parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre du comité exécutif du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC en sigle, chargé des médias. Il y a des structures, n'est-ce pas, qui ont été mises en place. Hein. Et est-ce que vous pensez que la lutte s'est faite comme il se doit? Ou alors, il y a des points qu'il faut améliorer, qu'il faut corriger?
Il y en a beaucoup qu'il faut corriger parce qu'il faut d'abord doter la République d'un cadre juridique. Donc il faudrait qu'il y ait une loi anticorruption et ça, coup de chapeau au nouveau ministre d'État à la justice qui est déjà à l'œuvre. Moi-même, je suis allé à Bibois pour participer à l'enrichissement de ce projet de loi anticorruption. Et au courant de cette session de mars, je crois que le projet de loi sera déposé à l'Assemblée nationale et nous allons tout faire pour que ce soit parmi les lois prioritaires à adopter avant la fin de cette session. Donc il faudrait, à part le cadre juridique, il faut que le pays soit doté aussi d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et puis, qu'il y ait aussi une loi qui est très importante, dont je suis porteur, c'est la loi portant protection des lanceurs d'alerte.
Merci Ernest Mpararo, vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, LICOCO en sigle. Vous êtes également le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Pouvez-vous nous parler des conséquences de la corruption en RDC en termes de données chiffrées?
Par exemple, vous aviez suivi la politique de la gratuité de la maternité. Ça, c'est un exemple simple. Le dernier rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, publié par le ministère du Plan, il dit que chaque jour, il y a 29 femmes qui meurent lors de l'accouchement. Pourquoi ces femmes meurent? C'est parce qu'effectivement, vous vous souvenez que le président a lancé la politique ou le programme de gratuité de la maternité. Or, lorsque vous passez, vous allez dans un hôpital, vous constatez que les mamans qui vont là-bas pour accoucher, ils payent tout, malgré le fait que le gouvernement a mis des moyens, a mis des paquets pour appuyer ces hôpitaux afin que nos mamans accouchent dans de bonnes conditions. Ça, c'est un seul exemple pour vous montrer les degrés de cette corruption où il y a 29 femmes qui meurent chaque jour. Maintenant, prenez mensuellement c'est combien, annuellement c'est combien.
Vous pouvez retrouver ce numéro de dialogue entre Congolais en entier sur www.radiocapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Lévin Bouingami, son nom par Alain Goy. Merci aussi à Alain Irung pour son apport. Passez une excellente journée.